Réplique Être catholique aujourd'hui avec Rémi Brague et Denis Moreau. Au XVIe et XVIIe siècle, nous dit le philosophe Denis Moreau, dans son livre « Comment peut-on être catholique ?», celui qui faisait profession d'athéisme suscitait l'étonnement et même l'incompréhension. S'il ne lui tournait pas le dos en criant au scandale, ses interlocuteurs lui demandaient d'expliquer les raisons de cette position stupéfiante et rare. À cette époque, c'était à l'athée qu'incombait la charge de la justification. Les temps ont bien changé. Aujourd'hui, dans une conversation entre personnes intéressées par la vie intellectuelle, c'est la non-existence de Dieu qui va de soi, et c'est à celui qui fait profession d'être catholique qu'il revient de se justifier. Pour ma part, je ne me sens pas l'âme d'un juge, et jamais je n'aurai l'idée de faire comparaître la religion devant le tribunal des Lumières. Je ne crois pas en Dieu, mais je ne me sens pas plus intelligent que les croyants. Je veux comprendre. Je suis curieux, passionné, peut-être même envieux. J'ai donc invité, avec Denis Moreau, un autre philosophe catholique, Rémi Brague, et je leur demanderai de m'éclairer, en commençant par une question non pas indiscrète, du moins j'espère, mais personnelle. Qu'est-ce pour vous que l'expérience de la foi, Denis Moreau?
Ah, alors ça touche quand même à des choses assez intimes dont je ne parlerai pas évidemment. Après, je peux parler en général. L'expérience de la foi, alors souvent les gens disent « tu as la foi » ou disent « j'ai la foi », c'est une expression dont je me méfie. J'ai pas la foi comme j'ai un téléphone portable. En tout cas, si j'ai la foi, c'est comme j'ai de l'énergie.
Dites d'ailleurs, c'est pas moi qui ai la foi, c'est la foi qui m'a eu.
Et par certains côtés, c'est la foi qui m'a eu. Mais c'est une réalité qui me traverse et qui me tient debout. Je dirais la foi, ce sont des opinions et des actions. Des opinions, il y a certains énoncés auxquels j'adhère ou fais le choix ou sur la vérité desquels je parie, et des actions parce qu'il en découle une certaine forme de pratique. Donc je dirais la foi, c'est avant tout une façon de se tenir face aux grandes questions de l'existence humaine, la vie, l'amour, la mort. Et j'aime beaucoup la formule de Paul Ricoeur, alors chrétien comme moi, lui est protestant moi, je suis catholique. La foi, c'est un hasard transformé en destin par un choix continu. Un hasard, ce sont les hasards de la naissance et de mon éducation, transformé en destin, j'ai bientôt 50 ans, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais c'est sous la houlette du catholicisme que j'ai vécu ces 50 années, par un choix continu, parce qu'il y a aussi, théologiquement, il faut en discuter, mais une composante volontariste dans la foi, ça se travaille, ça se nourrit, ça s'entretient.
Je précise ma question, la foi en quoi? Alors, quoi avez-vous la foi?
Ça, vous avez raison de poser cette question, parce que quand on a dit « j'ai la foi », on n'a rien dit. De même que quand on dit « je crois en Dieu », on n'a rien dit, parce que la question c'est « en quel Dieu ?»
Alors, moi, en quel Dieu, oui.
Et sur le marché des dieux, il y en a beaucoup. Donc, il faut effectivement préciser. Alors, je crois que pour un catholique, ça serait la foi en Jésus-Christ. Je pense que c'est quand même ça qui est central dans la religion chrétienne. C'est écrit dessus. Et peut-être pour moi, mais après il y a différentes nuances et différentes portes d'entrée dans le catholicisme. Peut-être pour moi, ça serait la foi, alors ce qui n'est pas le plus facile à vivre et à concevoir, mais qui est sans doute le plus important et m'apparaît comme la plus grande puissance de transformation de ma vie, ce serait la foi placée en la résurrection de Jésus-Christ. Donc une thèse qui a à voir avec quelque chose qui est une composante fondamentale de l'existence humaine, c'est-à-dire la mort.
Résurrection de Jésus-Christ, l'amour, et ça a à voir aussi peut-être avec la vie éternelle. Non.
Alors là, oui, bien sûr. Enfin,
la vie après la mort.
Alors, un chrétien est quelqu'un qui croit ou qui fait le pari qu'il y a une vie après la mort. Et de ce point de vue-là, enfin, je sais que les gens sont souvent choqués quand on. C'est une thèse qu'on trouve très bien expliquée chez Pascal. Un chrétien est quelqu'un d'intéressé, dans sa foi, au sens où il vit ce qu'il considère comme le plus grand bonheur possible. Et c'est ça qu'il recherche. Donc, moi, je ne crois pas à la foi pure de tout intérêt ou dénuée de tout intérêt individuel. Moi, je revendique une foi intéressée, ça ne veut pas dire égoïste ou autocentrée, mais je revendique une foi qui pour moi, alors aussi bien pour cette existence que pour l'existence future et éventuelle, est un pari sur la vie bonne. C'est-à-dire, je n'ai pas du tout le sentiment, en étant catholique, de sacrifier des choses. J'ai le sentiment de m'engager sur une voie qui, dès à présent, me conduit à vivre aussi bien que je le peux. Disons que le catholicisme est pour moi une des réponses envisageables, sûrement pas la seule, mais une des nobles réponses envisageables à la question de la vie bonne. Et bien entendu, en tant que catholique, je pense à la vie éternelle et ça m'intéresse aussi.
Rémy Braque, dans un entretien publié par le mensuel L'Incorrect avec Pierre Manant, vous mettez en garde contre la tentation de réduire la religion à la religiosité de chacun. C'est pourquoi, pour vous, je précise ma question, vous dites après Newman qu'il faut parler un peu moins de la foi, un peu plus du dogme. Alors, je vous demande, c'est quoi le dogme et pourquoi le suivez-vous, Rémy Braque ?
Le mot dogme doit déjà être un petit peu déminé à cause de sa parenté dangereuse avec l'adjectif dogmatique ou le substantif dogmatisme, deux mots qui ont très très mauvaise presse. Et on comprend effectivement d'ailleurs que ce soit le cas vu ce à quoi ils ont été appliqués. Le dogme, eh bien, c'est justement l'objet de la foi, l'objet de la croyance. Ça m'énerve toujours un petit peu lorsque l'on parle, par exemple, des écrivains croyants. Bon, je n'ai rien contre les braves gens qui se désignent ainsi, ni contre l'association qui les réunit, mais ce qui m'énerve, c'est qu'on met entre parenthèses ce en quoi ils croient. Parce que, enfin bon, Dieu et les soucoupes volantes, même combat, serait une formule un petit peu exagérée. Enfin, c'est pas tout à fait de ça qu'il s'agit. Donc, ce que j'appelle dogme, et je cite effectivement un passage de Newman dans lequel il dit, exprimant d'ailleurs, racontant dans une sorte d'autobiographie son expérience la plus personnelle de la foi, qu'il a toujours refusé de réduire la foi à un sentiment, au sentiment religieux sur lequel on a écrit de très belles choses. Je pense à Bremont, par exemple, son histoire littéraire du sentiment religieux en France, qui a été récemment condensé et réédité d'une manière tout à fait convaincante. L'expérience religieuse ne peut pas, me semble-t-il, se réduire à une impression, enfin quelque chose qui nous ferait, je ne sais pas, des guilis-guilis partout. C'est un rapport avec un objet. Le fait que l'objet du christianisme, c'est une personne, bon, ne veut pas dire que Jésus serait une chose. Ça veut simplement dire qu'il y a une réalité devant nous par rapport à laquelle nous devons nous situer. Alors pourquoi moi-même, ma petite personne, je me situe positivement par rapport à cet objet ? Eh bien, je dirais parce que, comme le dit un passage très connu de la liturgie de la messe, je trouve cela digne et juste. Si ce qui nous est proposé à croire est vrai, eh bien, ça mérite, si je puis dire, qu'on y croit. Et il y a là une attitude presque esthétique. Je n'hésite pas à employer ce mot. Enfin, nous sommes devant l'objet de la foi, un petit peu comme devant une œuvre d'art. Une œuvre d'art qui va être aussi inépuisable, d'une part, et aussi, comment dire, aussi attirante. La réaction devant un bel objet d'art, bah, c'est de rester devant. C'est de le contempler, c'est d'y passer du temps, éventuellement même de regarder tout le reste de la réalité à partir de ce que cette œuvre d'art nous apprend. Bah, mon rapport à l'objet que le christianisme nous propose de croire ressemble un petit peu à ça.
Cet objet, c'est le Christ, si j'ai bien compris, pour l'un comme pour l'autre. Et dans votre livre, Denis Moreau, vous citez l'Épître aux Corinthiens de saint Paul. « Si le Christ n'est pas ressuscité, notre message est vide, et vide aussi votre foi. Si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est illusoire. » Et vous ajoutez, Denis Moreau, « Je définirais un chrétien comme quelqu'un qui fait le pari de croire que ce n'est pas la mort qui gagne à la fin, parce que le Christ est ressuscité, nous montrant par là que la mort n'est pas le terme absolu. » Vous dites que les pères de l'Église parlaient d'une mise à mort de la mort, et vous citez également saint Augustin, « Le Christ est mort, mais il a tué la mort. Il a achevé en lui-même celle que nous craignions. Il l'a prise, il l'a tuée, comme un grand chasseur affronte un lion et le terrasse. Où est la mort ? Cherche-la dans le Christ, elle n'y est déjà plus. Elle était en lui, mais elle est morte. Ô vie, mort de la mort. » Alors j'aimerais que vous me commentiez l'un et l'autre ce passage de l'Épître aux Corinthiens et ces phrases très belles de saint Augustin. Après quoi, je donnerai moi-même, si vous le permettez, ma propre opinion, mon propre commentaire. Denis Moreau.
Alors ces phrases, déjà, si jamais ça n'est pas vrai, au moins c'est très beau. vous l'avez bien lu, ce sont des phrases magnifiques. Alors, je caricature un petit peu. Ce qui est exceptionnel dans l'existence de Jésus-Christ, c'est sa résurrection. Et c'est ce que dit Paul. Jésus est né, mais ça arrive à tout le monde. Il a mené une vie d'agitateur politico-religieux, qui a déplu aux autorités en place, et je caricature, hein, et qui a été victime d'un procès expéditif, mais, disent certains, 3 jours après sa mise au tombeau, on l'a revu, vivant, bien présent, et donc, par lui, la mort a été vaincue. Alors ça, c'est ce que dit cette phrase de saint Paul que vous avez rappelée. Je pense, enfin, que c'est le cœur du christianisme. C'est pour ça que la plus grande fête chrétienne, ce n'est pas, si ça a un sens d'établir un palmarès, ce n'est sans doute pas Noël, qui est la fête de la naissance du Christ. Mais c'est Pâques qui commémore sa résurrection. La résurrection du Christ nous indiquant donc que la mort n'est pas le terme absolu de nos existences. Et ça, je pense que croire cela, ça change la vie. Alors un texte qui présente ça, vous avez parlé des pères de l'Église. Les pères de l'Église lisaient souvent de manière figurée le récit de la sortie d'Égypte des Hébreux. Et ce texte que tout le monde connaît au livre de l'Exode, où les Hébreux, pourchassés par les Égyptiens, se retrouvent devant la mer Rouge. Ils vont aller s'écraser dans la mer. Et puis la mer s'ouvre, ils peuvent traverser. On y a souvent vu chez les pères de l'Église une préfiguration de ce que le Christ réalise pour nous. Devant nous, il y a le mur de la mort. Alors, je parle à dessein de mur de la mort parce que c'est Sartre qui, dans sa nouvelle Le Mur, métaphorise la mort comme un mur. Devant nous, il y a le mur de la mort contre lequel nous pensons aller taper. Et puis, le Christ ouvre une brèche dans le mur de la mort et nous indique par là que ce n'est pas la fin absolue de toute chose. Et ça, je pense que si on adhère à cette idée, alors qu'est une idée à la fois belle et peut-être en un sens improbable, la vie en est radicalement commuée. Je suis pas le premier à dire ça. Je crois que une des grandes difficultés que les hommes ont dans la vie, c'est la peur de la mort. Je ne connais personne qui n'ait pas peur de la mort. Peut-être pas de la mort en général, mais comme dit Yankelevitch, il faut aussi parler de ma mort en première personne. Et ça, je suis pas très à l'aise avec l'idée que je vais mourir personnellement. Et il y a la peur de ta mort, de la mort des gens que nous aimons. Et ça, je ne connais personne qui n'ait pas peur de la mort des gens qu'ils aiment. C'est de ça dont la résurrection du Christ nous libère, et je pense que avec des penseurs alors non chrétiens comme Épicure, comme Heidegger, que la façon dont nous concevons la mort détermine radicalement la façon dont nous vivons, et que donc la bonne nouvelle, c'est-à-dire en grec l'évangile de la résurrection du Christ, c'est quelque chose qui change radicalement l'existence du chrétien.
Vous dites même que la foi, la religion, la croyance en la résurrection du Christ peut libérer de la peur de la mort. Alors, c'est ce que vous écrivez.
Tendanciellement, oui.
Tendanciellement, oui.
Je pense aussi que, alors, c'est une thèse qui serait sans doute un peu plus compliquée à expliquer rapidement, qu'un certain nombre de comportements toxiques, nocifs que nous adoptons dans la vie, ce qu'en lexique chrétien on appellerait plus volontiers des péchés, mais c'est pareil, c'est un mot que plus personne ne comprend, sont des effets de la peur de la mort. C'est-à-dire que la peur de la mort non seulement nous fait vivre de manière apeurée, mais nous amène à mal nous conduire, et que c'est de ça aussi que libère la foi placée en la résurrection du Christ. Donc je défends l'idée que la foi placée en la résurrection du Christ est une puissance d'amélioration de la vie présente, actuelle.
Rémi Brague, sur cette question difficile.
Je commencerai peut-être par la négative. Nous avons entendu dire, depuis les années 80 du 19e siècle, « Dieu est mort ». La formule est plus ancienne, bien entendu, mais enfin, c'est quand même Nietzsche qui lui a donné une orchestration puissante, et surtout une orchestration qui a eu du succès, enfin, que l'on cite, que l'on répète. Si l'on regarde bien la logique de cette affirmation, on va être amené à la retourner et à dire que la mort est Dieu. Si en effet la mort a réussi à triompher de celui que les chrétiens appellent le prince de la vie, bon, à savoir le Christ, si celui-ci n'est pas ressuscité, alors c'est la mort qui est la plus forte. Et comme nous avons pris l'habitude depuis au moins le XIVe siècle de définir la divinité à partir de l'idée de toute puissance, nous disons le tout puissant, et on comprend très bien de qui il s'agit, alors la place du Tout-Puissant va être occupée par celle qui a vaincu celui que l'on croyait jusqu'à présent le Tout-Puissant, à savoir Dieu le Père Tout-Puissant. Et la conclusion, ça va être que la mort est Dieu. Donc Dieu est mort, la mort et Dieu sont des propositions finalement équivalentes, au-delà de la, du petit truc rhétorique qui consiste à inverser le sujet et le prédicat. Alors le christianisme s'inscrit en faux contre cette équation et dit que, effectivement, la mort n'est pas un dernier mot, que Dieu, que la puissance de la vie avec un V majuscule ne nous abandonne jamais, même lorsque les portes de la vie semblent claquer derrière nous de façon définitive. Ce que le chrétien croit, je l'exprimerai par un mot qui est d'un auteur, un peu à la limite du christianisme, en marge, à savoir le philosophe allemand Fichte, un disciple de Kant, donc au tournant du 18e sur le 19e siècle, et qui a cette formule assez belle, me semble-t-il, dans une œuvre d'ailleurs de philosophie un peu populaire, mais bon, connaissant Fichte, même ce qui est populaire est quand même assez fort de café. Et il disait, ce n'est pas la mort qui tue, c'est la vie plus vivante. C'est un petit peu cela que croit le chrétien, et il se fonde là-dessus, sur l'expérience de Jésus-Christ, qui ne commence pas à être intéressante avec la résurrection. Enfin, la résurrection, bien entendu, est le sceau, S-C-E-A-U, qui garantie, si je puis dire, qui authentifie tout ce qui s'est passé. Mais il faut quand même déjà regarder chez le Christ certaines attitudes, chez Jésus de Nazareth, celui dont parlent les évangiles, certaines attitudes assez remarquables. Par exemple, le fait de parler d'autorité. Ça surprenait beaucoup ses contemporains. Au lieu de dire « je parle au nom de tel rabbin qui m'a tout enseigné », etc. Non, lui parlait en son nom propre. Il tutoyait le père, il l'appelait papa, ce qui est quand même assez extraordinaire. Enfin, que considérer Dieu comme son père, comme un père, bon, ça c'est quand même très banal. Freud a même dit que le judaïsme avait ce talent extraordinaire, ce don extraordinaire d'avoir exprimé clairement ce qui flottait un petit peu dans l'air de toutes les religions. Lui, il l'appelle papa. Bon, c'est assez, ça prouve, si vous voulez, un rapport assez extrême d'intimité et sur lequel la résurrection appose son sceau. Elle montre que c'est bien ça, c'était bien vrai, c'était bien le cas. Les puissances de la mort, vous avez eu tout à fait raison, Denis Moreau, de parler du péché. Mais effectivement, le mot est tellement démonétisé maintenant qu'il faudrait lui redonner le sens qu'il a en italien. C'est Gianni Vattimo, avec qui j'ai eu d'ailleurs le bonheur de discuter ici même, à cette émission, il y a plusieurs années, qui réfléchit, avec un sourire d'ailleurs, sur l'expression italienne « peccato », ce qui veut dire « dommage ». C'est dommage que l'on ait fait ça. Tout péché est un dommage, c'est un raté.
Où est le péché dans le rapport à la mort ?
C'est plutôt la mort qui est dans le péché, c'est que tout péché conduit à la mort. Lorsque saint Paul dit dans une épître « le salaire du péché, c'est la mort », ça ne veut pas dire que c'en est la punition, ça veut dire que c'est la logique même, que ça mène à la destruction. Que, rater quelque chose, c'est peut-être comme ça qu'il voudrait traduire péché, c'est un raté, comme un moteur qui tousse. Bon, ça mène à la destruction, ça mène à la négation de la vie. Alors nous croyons que la vie est tellement vivante, donc qu'elle est capable d'absorber ce que nous appelons la mort physique.
Oui, mais là je vais apporter mon propre commentaire. L'incroyant ne se croit plus, si j'ose dire, supérieur. Il est démuni. Saint Augustin dit le Christ a tué la mort. Effectivement, pour l'incroyant, c'est la mort qui a tué Dieu. Mais il n'y peut rien. La brèche dont vous parliez, Denis Moreau, ouverte par le Christ, s'est refermée. Et il me semble que ça commence déjà au XVIIe siècle. Ça commence par Pascal, le plus grand penseur chrétien. Mais justement, il y a une opposition entre Bossuet et Pascal qui me semble très éloquente. Dans le sermon sur la mort, Bossuet conclut ainsi. « Que crains-tu donc, âme chrétienne, dans les approches de la mort ? Peut-être qu'en voyant tomber ta maison, tu appréhendes d'être sans retraite. Mais écoute le divin apôtre. Nous savons, dit-il, nous ne sommes pas induits à le croire par des conjectures douteuses, mais nous le savons très assurément et avec une entière certitude que si cette maison de terre et de boue dans laquelle nous habitons est détruite, nous avons une autre maison qui nous est préparée au ciel. » Et Pascal ne dit plus du tout ça. Pascal dit « Le dernier acte est sanglant. Quelque belle que soit la comédie en tout le reste, on jette enfin de la terre sur la tête et en voilà pour jamais. » Et sur la religion, il dit ceci, « S'il ne fallait rien faire que pour le certain, on ne devrait rien faire pour la religion, car elle n'est pas certaine. » Le vocabulaire de la certitude n'est plus employé par Pascal. C'est ainsi, me semble-t-il, que la différence entre le croyant et l'incroyant n'est plus abyssale. Elle est même considérablement réduite. Le croyant se demande anxieusement s'il y a quelque chose. Il fait le pari qu'il y a quelque chose. Mais le pari, comment dire, c'est un geste inspiré par l'anxiété. Et ce qui nourrit l'angoisse de l'incroyant, c'est qu'il est sûr, absolument sûr, qu'il n'y a rien. Et cette certitude ne lui fait vraiment pas plaisir. Et donc j'ai été étonné de numéro par une phrase d'Urs von Balthasar que vous citez dans votre livre, parce qu'il dit ceci, que le christianisme est un non à l'angoisse, un non radical. Il n'est pas permis aux chrétiens de connaître l'angoisse, l'accès lui en est interdit. Mais ça, il peut toujours le dire. Mais c'est comme ça, au moins dans la modernité. C'est comme ça pour les uns et pour les autres. Il y a peut-être des degrés d'angoisse différents. Bien sûr, entre celui qui croit et celui qui ne croit pas, mais plus personne ne réussit à retirer à la mort son dard venimeux. Et en tout cas, l'athée, s'il n'y arrive pas, il n'est pas content. Je cite un dernier auteur, Gershon Scholem, « Là où il y avait Dieu, se tient désormais la mélancolie. » Denis Moreau.
Oui, alors vous avez raison, le texte de Bossuet que vous citez parlant d'entière certitude, alors j'ai envie de vous dire, il a bien de la chance, Bossuet, c'est pas mon cas, si ça peut, je ne suis pas entièrement certain, je ne suis pas certain du tout d'ailleurs d'avoir eu raison de gager ma vie sur la foi catholique, je suis certain d'avoir fait un bon choix. Plus le temps passe et plus je vois les gens, notamment des gens que j'aime, s'engager sur des mauvais chemins, plus je me dis que ce choix-là n'est pas si mauvais, mais je ne suis pas certain d'avoir fait le bon choix. De ce point de vue-là, Pascal est beaucoup plus moderne. Pascal qui, oui, effectivement, parle en termes de Paris. Alors, je pense que je me sens très proche de Pascal, sauf sur la tonalité générale de son rapport au monde, qui est quand même très angoissé et mélancolique, comme vous le rappeliez. Il y a même dans ça. Alors, je suis d'accord avec vous pour dire que c'est sans doute, sinon du moins un des plus grands penseurs chrétiens, mais dans son projet, alors comme on dit, apologétique, donc pour essayer de convaincre l'incroyant d'adhérer au christianisme, il y a quelque chose qui pour moi est assez désagréable, c'est le thème de la misère de l'homme sans Dieu. C'est-à-dire cette idée que les gens qui ne croient pas en Dieu sont malheureux, et on voit bien Pascal discuter avec le libertin, on voit bien le libertin répondre « Ah ben moi je suis pas si malheureux que ça », et Pascal insistait « Mais si, réfléchis bien, tu verras, tu es malheureux ». Ça, cette façon de procéder me déplaît. De Pascal, je retiens la notion de pari. Je pense qu'effectivement, la foi, à un moment donné, est un pari. Alors, parce que cette certitude dont parlait Bossuet demeure pour moi absente, donc c'est un moment où on choisit de gager sa vie sur quelque chose. Quant à l'angoisse, le texte d'Urs von Balthasar que vous citez date des années 50-60, je pense, donc on était en pleine période existentielle.
Existentialiste, oui, j'imagine.
Où les gens en faisaient beaucoup. L'angoisse devenait
le thème à la mode. Oui.
Voire le Graal de la philosophie. On devait se sentir très malheureux quand on n'était pas angoissé. Enfin, on pensait rater une dimension essentielle de l'existence. Je crois qu'effectivement, le christianisme, enfin, en tant qu'il se propose comme une réponse à la question de la vie bonne, et comme une réponse à la mort qui nous menace, de droit idéalement interdit une certaine forme d'angoisse. Après, de fait, et dans la réalité de la vie du croyant, bien sûr qu'elle est présente, mais je pense qu'elle est présente et assumée différemment.
Rémi Brague.
La religion n'est pas certaine, comme le sont toutes les relations personnelles. Je ne suis pas certain, au même sens que je suis certain des vérités mathématiques, que ma femme m'aime, par exemple, et ni même même que j'aime ma femme. Bon, je crois que c'est le cas. Ben, je crois que c'est le cas, mais je n'ai pas le droit de m'emparer, si je puis dire, de cet amour pour en faire quelque chose que je posséderais.
C'est un peu différent. On peut dire, je crois que ma femme m'aime, effectivement, oui. Je ne peux pas en être sûr, mais du sentiment qu'on éprouve, on peut quand même tirer une certitude.
De la valeur du sentiment que j'éprouve, si l'amour est un sentiment, ce qui reste à prouver, je ne suis jamais totalement certain. Je ne suis jamais certain d'atteindre le niveau où j'aime l'autre, en l'occurrence ma femme, je ne sais pas, on peut penser à mes enfants, mes amis, enfin bon. Je ne suis pas sûr que je les aime totalement pour eux-mêmes.
Ah oui.
Car c'est ça la définition de l'amour.
D'accord. Hein,
c'est de vouloir le bien de l'autre pour lui-même. Et abstraction faite du plaisir, de l'intérêt, du gain, enfin de tous les avantages de quelque sorte que je puisse en tirer. Donc je dirais que là, il y a quand même une certaine ressemblance entre la religion et la relation personnelle. Lorsque l'on dit que Dieu est une personne, bien entendu ça ne veut pas dire que c'est un bonhomme ou une bonne femme avec un corps, bon, comme une âme comme les nôtres, non ? Ça veut dire que nous sommes envers lui dans le même type de relation que nous sommes avec ce qu'il y a de plus personnel en nous et dans l'autre. Le dard venimeux de la mort, j'ai envie de dire une horreur et de reprendre le sens argotique du mot dard, que tout le monde comprend.
Ah non.
Ça veut dire le pénis. Si la mort est le dernier mot, alors l'organe par lequel nous donnons la vie est effectivement venimeux. Nous ne faisons que transmettre une maladie mortelle, sexuellement transmissible, comme disent les humoristes. Auquel cas, on peut se demander ce qui va expliquer que notre existence vaut non seulement la peine d'être continuée, puisque de toute façon, à nouveau pour citer Pascal, nous sommes embarqués, mais nous embarquons des autres dans le même bateau. La question de savoir s'il existe des athées heureux est aussi peu intéressante que de savoir s'il existe des chrétiens heureux ou des dentistes heureux. Je rappelle qu'il existe aussi des imbéciles heureux. Le bonheur est un état psychologique qui ne prouve pas énormément de choses. Je n'en dirai pas autant de la joie, sur laquelle, Denis Moreau, vous avez quelques pages que j'ai bien aimées. Là, je crois que je serai assez d'accord avec Bergson, qui distingue le plaisir et la joie, et qui dit que la joie est le signe que la vie a fait un pas de plus, enfin, que la vie a remporté une victoire. Cette victoire, nous pensons, au-delà de Bergson, qu'elle se parachève, enfin, elle atteint sa plénitude dans ce que nous appelons la résurrection. Et il est amusant d'ailleurs que Schelling faisait le jeu de mots sur le mot hébraïque pour éternité, qui signifie également la victoire. La victoire sur la mort, le passage à l'éternité, c'est cette joie que nous espérons sans en être certains, de la même façon que nous serions certains de ce que, si l'on additionne 2 plus 2, ça va donner plutôt 4.
Un dernier mot sur cette question. Lévinas écrit quelque part ce qu'on appelle d'un terme un peu frelaté « amour », et par excellence le fait que la mort de l'autre m'affecte plus que la mienne. L'amour de l'autre, c'est l'émotion de la mort de l'autre. Voilà quand même une certitude qu'on peut avoir. Et là, je voudrais vous citer le témoignage d'un grand penseur chrétien, à défaut d'être catholique, C.S. Lewis. Un très beau livre, Grief Observed, sa femme est morte. L'observation d'un chagrin. Et il dit ceci, « Parlez-moi de la vérité de la religion, et j'écouterai gladly. » Avec joie. Parlez-moi du devoir de la religion et j'écouterai docilement. Mais ne venez pas me parler des consolations de la religion où je vous soupçonnerai de ne rien comprendre. Et pourtant, et d'ailleurs, c'est présent dans votre livre, il y a un aspect consolateur dans la religion. Vous parlez notamment du numéro de la mort de votre père. Vous dites que vous avez beaucoup pleuré, mais vous avez aussi éprouver un sentiment de joie, cette joie dont vient de parler Rémy Brague, parce que joyeux, dites-vous, d'être porté par la conviction qu'il ne venait pas de s'anéantir, mais d'atteindre la plénitude de son être, joyeux d'être animé de l'espérance que l'adieu signifiait au fond à bientôt, que la séparation, pour douloureuse qu'elle fût, n'était que transitoire. Et il est vrai que l'incroyant, c'est celui qui est privé de cette joie.
Oui. Alors, vous parlez ces pages sur la mort de mon père, j'ai beaucoup hésité à les écrire pour des raisons évidentes, c'est qu'elles sont... Puis je me suis dit que c'était un lieu où, effectivement, ma foi avait changé ma vie, enfin, avait changé la façon dont je recevais des événements terribles de la vie, donc j'en ai parlé. Je reviens sur le thème de la consolation, le thème plus général là dont vous êtes parti. D'abord, je ne ferai la leçon à personne, en général, et pas à C.S. Lewis en particulier, bien sûr. Après, je suis toujours un peu étonné par cet argument. Enfin, les gens semblent considérer qu'il va de soi que parce que la religion est consolante, elle est erronée. Je trouve ça très discutable. On pourrait dire, si la religion est une consolation illusoire, là, peut-être faut-il commencer à la contester. Mais, enfin, de façon, je dis une trivialité, que quand je suis malheureux et qu'on vient me consoler, j'apprécie. Ce n'est pas quelque chose que je refuse. Il se trouve qu'il y a des... Enfin, le dur métier d'exister n'est pas toujours facile à pratiquer. Il y a effectivement des doctrines qui se présentent comme des aides, voire des consolations dans les moments difficiles. Je ne vois pas pourquoi le fait que ces doctrines soient consolantes serait un motif suffisant pour les rejeter d'emblée. Et là, je parle d'une... Enfin, d'une certaine interprétation, parce que quand on regarde le texte de Marx, il est un peu plus nuancé que ça, de ce fameux thème de la religion opium du peuple. Après tout, dans une période où tout le monde prend des opiacés, des antidépresseurs, est-ce que c'est si immédiatement péjoratif, ce thème de l'opium du peuple? Et à des gens, je pense aussi à un très beau texte d'André Comte-Sponville, philosophe athée, à des parents qui viennent de perdre leur enfant et que la perspective de la vie éternelle console, qui oserait venir dire « vous avez tort ». Voilà, donc je pense qu'avant de se ruer sur ce thème de la consolation et d'en faire à l'évidence un argument critique à l'égard des religions en particulier et de ce qui apporte de la consolation en général, il faut peut-être être un peu prudent, parce qu'on peut aussi être vite blessant et priver les gens de secours dont il n'y a pas lieu de vouloir à tout prix les supprimer.
Rémy Brague.
Oui, je comprends assez bien pourquoi cette idée de consolation peut déranger. C'est que on a l'impression qu'elle peut détourner de la rigueur, voire de l'âpreté du devoir qui consiste à accomplir le bien, enfin le maximum de bien possible. Le reproche d'escapisme, puisque ce mot vilain a été forgé il y a déjà pas mal de temps, est constant. Et je crois qu'il faudrait réfléchir sur l'expérience de Mère Teresa. Pourquoi Mère Teresa? Eh bien parce que on a su, par la publication d'une sorte de journal intime qu'elle tenait, qu'elle n'a pas connu pendant plusieurs dizaines d'années, et pendant toute la fin de sa vie, à vrai dire, ce que justement, dans le langage un peu technique de la spiritualité, on appelle une consolation. Enfin, des consolations, c'est-à-dire des moments où on a l'impression que le contact avec Dieu est facile, etc. Et je ne sais pas quel crétin dans un journal qui m'est tombé sous les yeux à l'époque de la publication de ce texte a écrit « Tiens, même les saints n'y croient plus !» Ce qui prouvait une méconnaissance abyssale de la nature de la foi. La foi ne consiste pas à éprouver des sentiments sucrés à l'intérieur de soi. Elle ne consiste même pas à ressentir quoi que ce soit d'une certaine façon. Elle consiste, et en l'occurrence dans le cas de Mère Teresa, elle consiste plutôt à consoler autrui. Et c'est ce qu'elle a fait pendant une bonne quarantaine d'années, aider les gens à mourir dans des conditions, puisqu'ils étaient de toute façon condamnés par leurs conditions de vie et par leurs maladies, les consoler. Donc la consolation, je crois qu'elle a de la valeur lorsque, pour reprendre un mot qui est actuellement à la mode, elle ruisselle. Lorsque elle passe de celui qui la reçoit, ou qui ne la reçoit d'ailleurs pas du tout, à celui ou celle, en l'occurrence, qui la donne, qui la transmet. Et il y a un petit peu ça d'ailleurs dans Bernanos, dans Le Soleil de Satan, n'est-ce pas, où le prêtre, qui est une sorte de nouveau curé d'Ars, et qui passe sa vie au confessionnal, il donne, je ne sais plus quelle est la phrase exacte de Bernanos, mais enfin, il donne une paix qu'il ne possédait pas. Il n'éprouvait aucune consolation spirituelle, mais bon, il en donnait. Je crois que c'est un petit peu ça d'ailleurs, le christianisme, donner ce que l'on n'a pas, puisque ce que l'on pourrait avoir ne vient pas de nous.
Alors, maintenant je vous poserai une question peut-être banale, mais incontournable, c'est celle du mal. La religion est confrontée à cette question et elle a pris une acuité particulière à l'issue d'un siècle horrible. Le siècle des totalitarismes, le siècle de la Colima, le siècle d'Auschwitz. Alors je ne vous dirai pas que Dieu est mort dans les camps, pas du tout. Mais est-ce que l'idée de Dieu n'a pas été transformée, le rapport que l'on peut avoir à Dieu, par cette expérience? Ou du moins, comment les choses, ces deux objets, si je puis dire, peuvent s'accommoder l'un de l'autre?
Ça, c'est la question compliquée.
Donc
je vais y aller avec beaucoup de prudence, évidemment, étant donné le sujet. Je pense qu'il y a une réponse chrétienne à la question du mal, mais qu'il y a une réponse qui est d'une certaine façon difficile à entendre de l'extérieur de la foi. La réponse chrétienne à la question du mal, ça consiste à dire que Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ, que Jésus-Christ a lui-même souffert, et donc que Dieu connaît le mal et y participe. Mais c'est une réponse de théologien, et je pense qu'elle ne satisfera pas entièrement nos auditeurs. Donc si à présent on passe non plus en mode théologie, mais en mode philosophie, on retrouve la question de la théodicée, qui est une question alors d'une certaine façon vieille, comme l'idée d'un Dieu unique, tout puissant, bon, créateur. Cette question, alors je vais vous dire franchement, je n'ai pas de réponse complète. Je l'explique dans le livre. Je reconnais là une excellente objection contre l'existence du Dieu chrétien. On peut toujours, bien sûr, en appeler au mystère et à l'insondabilité des voies de Dieu. Je n'aime pas trop, en tant que philosophe, j'aime bien un peu l'intrépidité rationnelle. On peut toujours aussi, bien sûr, alors, en appeler aux libertés humaines. Et je pense que une bonne partie des mots qui ont couturé de façon effroyable le XXe siècle peuvent se ramener au mésusage que des hommes, dont vous avez rappeler dans quelles circonstances on fait de leur liberté. Donc il y a différentes tactiques de réduction du mal qui permettent, comme disait Leibniz, de plaider la cause de Dieu et d'essayer de l'innocenter. Je pense que moi, à un moment donné, on bute quand même sur une sorte de résidu de mal qui n'est pas réductible au mésusage que les hommes font de leur liberté. Bon, c'est typiquement le tsunami, enfin le tremblement de terre de Lisbonne dont parla si bien Voltaire et qui le posait à Leibniz. Et là, je reconnais qu'en tant que philosophe, j'ai une difficulté qui consiste à faire tenir ensemble les cinq propositions. Dieu existe, Dieu est bon, Dieu est tout-puissant, Dieu est créateur, et le mal existe. Si j'en fais sauter une des cinq, j'ai plus de problème. Mais les cinq à la fois, c'est très compliqué. Pour moi, avec une claire conscience de ce que ça a d'insuffisant, la voie que j'essaie d'emprunter, c'est une voie que j'ai trouvée chez Malebranche, par exemple, qui est pour moi un grand philosophe, que je retrouve chez Hans Jonas, dans Le concept de Dieu après Auschwitz. Ça consiste à affaiblir la proposition « Dieu est tout-puissant ». C'est-à-dire, je pense qu'il y a dans l'univers des choses, sûrement les libertés humaines, peut-être certaines structures de l'univers, qui s'opposent à un déploiement complet de la puissance de Dieu. Mais je reconnais très volontiers que c'est un des lieux où ma foi et la façon rationnelle dont j'essaie d'en rendre compte à Chope.
Le choix de Hans Jonas, c'est aussi celui d'Eti Illesum, qui a tenu un journal à Amsterdam avant d'être déporté à Auschwitz. Et dans ce journal, elle écrit « si Dieu cesse de m'aider, ce sera à moi d'aider Dieu. Mais sur cette question.
Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que Denis Moreau a dit très très bien, si ce n'est peut-être rappeler une question que posait Boèce, donc cet auteur du tout début du VIe siècle. D'où vient le bien ? On demande toujours d'où vient le mal, et on a tout à fait raison de se le poser, cette question douloureuse. On a tout à fait raison, me semble-t-il aussi, de dire que la réponse est loin d'être évidente. Mais il faut aussi se demander d'où vient le bien, en ce sens que nous avons, je crois, le travers de penser que le bien va de soi, que c'est normal, que, le bien nous est dû d'une certaine façon, et donc nous nous indignons lorsque ça ne marche pas, lorsque quelque chose contrarie nos desseins. Il faudrait que nous nous posions aussi la question de l'origine du bien, et que nous considérions que ça n'est pas quelque chose qui aille de soi.
Alors, personnellement, je n'aurais pas l'outrecuidance de dire que Dieu est mort à Auschwitz. Je n'en sais rien, je ne suis pas croyant, je ne peux pas. Mais il y a une idée qui me paraît presque obscène. Après tout ça, c'est l'idée de Providence. J'en veux pour preuve d'ailleurs un passage de Primo Levi, un ami qu'il rencontre en 1946, qu'il revoit en 1946, qui est un croyant et qui lui dit que s'il a été sauvé, c'est pas pour rien. C'est un élu, il a été sauvé parce que lui, il pouvait écrire, il pouvait témoigner. Et pour Primo Levi, c'était une offense aux rescapés. Donc si j'avais la foi, ce serait la foi de Peggy, si j'ose dire. Voilà la situation que Dieu s'est faite. Celui qui aime tombe dans la servitude de celui qui est aimé par la même. Celui qui aime tombe dans la servitude de celui qui l'aime. Dieu n'a pas voulu échapper à cette loi commune. Et par son amour, il est tombé dans la servitude du pécheur. Quel dépouillement de soi de son pouvoir. Quelle imprudence, quelle imprévision, quelle imprévoyance, quelle improvidence de Dieu. Nous pouvons faire défaut. J'aime personnellement ce thème de l'improvidence. Je le trouve magnifique. Et il l'a dit à l'orée de ce siècle en plus. Mais maintenant, la question que je voudrais vous poser, pour terminer, c'est, selon vous, quelle peut être, dans la société actuelle, dans la France telle qu'elle est, et telle qu'elle se cherche peut-être, quel peut être le rôle des catholiques ? Jean-Luc Marion a parlé d'un moment catholique aujourd'hui, mais voilà, est-ce que les catholiques ont un rôle à jouer dans la France, comme elle va ou comme elle ne va pas ? Denis Moreau.
Alors oui, j'en suis convaincu. Les catholiques, d'abord, sont des citoyens comme les autres, il faut le rappeler, et donc, en tant que tels, ils ont les mêmes droits que les autres, c'est-à-dire celui d'intervenir dans le débat lorsqu'ils en ont envie, enfin, dans les respects de la loi, et pourvu que ça n'occasionne pas de troubles à l'ordre public. Donc oui, je pense que les catholiques ont un rôle à jouer. Lequel ? Alors, je ne suis pas spécialiste des questions politico-sociales. Je vais vous dire une banalité. C'est... Quand on lit Saint-Augustin, Saint-Thomas d'Aquin, les textes produits actuellement par l'Église catholique, il y a l'idée que l'action publique du catholique doit être guidée par la recherche du bien commun. Voilà. C'est pas très facile de s'entendre sur ce que c'est que le bien commun, mais aussi bien chez Saint-Augustin que chez Thomas d'Aquin, il y a cette idée que dans le bien commun, il y a la concorde civile. La paix commune, privilégier les gestes qui réparent sur ceux qui séparent. J'en reviens à des banalités, mais qui sont des banalités essentielles, puisque ce sont les évangiles. Heureux les doux, heureux les artisans de paix, ce sont les béatitudes du chapitre 5 de saint Matthieu, proclamé par Jésus. Et donc je crois que dans une société française qui est traversé par des tensions, des crispations que nous connaissons tous, il appartient aux catholiques de jouer un rôle d'apaisement. Et c'est une des choses que Jésus leur demande de faire. Après, je pense que sur bien des questions, alors ça, ce serait pour moi la tâche fondamentale aujourd'hui, dans une société où les choses se tendent, d'étendre et apaiser. Quitte d'ailleurs à renoncer par là à défendre certaines des idées auxquelles on est attaché. Je pense, voilà, pas question. Il y a eu un grand moment de tension autour de la manif pour tous. Ce moment, il est dépassé. C'est pas la peine d'en rajouter. C'est fini. Et voilà. Pareil, j'ajouterais qu'il me semble que sur l'écologie, sur le respect de la vie, sur les excès du libéralisme, etc., il y a chez les catholiques, et concernant les excès du libéralisme depuis un bon bout de temps, c'est-à-dire depuis le pape Léon XIII au moins, fin du XIXe siècle, un certain nombre de textes assez précis et de réflexions assez intéressantes qui pourraient contribuer à nourrir le débat public contemporain.
Rémi Braque.
Là aussi, je n'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est dire que je suis d'accord sur à peu près tout. Et je reprendrai, si vous voulez, cette idée du bien commun, qui a l'intérêt majeur de ne pas être mon bien à moi. En d'autres termes, si les catholiques roulent, ils ne roulent pas pour eux-mêmes. Je ne peux pas écrire... Enfin si, je devrais écrire derrière ma voiture, je roule pour vous, en tant que catholique. En ce sens que je ne cherche pas mon bien à moi, le bien d'une catégorie, je ne sais pas, sociale ou même d'une catégorie religieuse en l'occurrence particulière, mais j'ai pour fonction, si je puis dire, j'ai pour mission de promouvoir le bien commun. Ce qui n'est pas si commode, parce qu'il est toujours très facile de croire que mes intérêts particuliers seraient justement, ou coïncideraient, ou pourraient promouvoir ce bien commun. Alors il y a toujours une exigence constante
d'autocritique.
Oui, mais justement,
le bien commun, pour qu'il y ait un bien commun, il faut qu'il y ait une communauté.
Voilà.
La France est-elle encore une communauté ? La France s'interroge sur son identité. On peut même dire qu'à certains égards, elle se divise, voire elle se disloque. Certains parlent de fracture française. Mmh. Est-il important pour la France qu'elle se souvienne de ses origines, vous ne direz pas, vous, de ses racines, mais plutôt de ses sources chrétiennes, pays de marque chrétienne, dit Pierre Manant. Aujourd'hui, face au changement démographique qu'elle connaît, est-ce une tâche que les catholiques doivent assumer, Rémi Braque ?
Qu'ils doivent l'assumer, certainement. Qu'ils puissent l'assumer, c'est évidemment une autre question. Cela dépend de savoir déjà si on veut bien les entendre, enfin, si on ne les fait pas parler dans un, non pas dans un tambour, mais dans une chambre tapissée de feutre où les voix s'étouffent. Non, ce qu'il faut bien voir, c'est que le christianisme, et je dirais plus précisément justement le christianisme catholique, a une notion et une institution qui s'appelle l'Église, et qui donne un modèle, si je puis dire, d'un joyeux foutoir. C'est absolument le contraire de ce que l'on s'imagine assez souvent, une sorte d'armée sous la direction d'un dictateur. En fait, il y a une diversité incroyable. Et au cours de l'histoire, n'est-ce pas, je ne parle pas simplement de notre petite actualité rétrécie, racornie, non, je parle de toute la longueur de l'histoire où l'on voit se côtoyer les tendances, les idées, les pratiques les plus diverses. Il se pourrait que ce soit là un modèle, non pas un modèle à imiter comme un idéal, mais disons un type de solution du problème de la coexistence qui puisse avoir une certaine valeur. Et là, je crois qu'on a peut-être, effectivement, en tant que catholique, son mot à dire.
Denis Moreau.
Oui, alors moi,
ces difficultés, ces tensions françaises, vous avez parlé d'apaisement.
Oui.
Mais apaisement, bien sûr, mais en même temps, certains voudraient exclure le catholicisme même de la définition de la France. Et que pensez-vous, vous, de cette proposition ? Quelle est la vôtre, oui. Denis Moreau ?
Moi, je suis pas sur le mode revendicatif, cette façon de rappeler en permanence les racines chrétiennes. Pour parler de racines chrétiennes, il est évident qu'elles existent et il faut quand même une très solide dose de mauvaise foi pour le nier. Si les gens n'ont pas envie d'en entendre parler, je vais pas passer mon temps à leur seriner. Je me souviens, on pourrait dire avec cum grano salis, dans l'Exode, tu n'invoqueras pas le nom de l'Éternel en vain, on pourrait rajouter, y compris pour des raisons politiciennes, voilà. Donc, en revanche, parler sereinement de ce que le monde où nous vivons doit au christianisme, alors en négatif, tout le monde connaît les heures sombres de l'Église, et il y en a eu, mais aussi en positif, je pense notamment alors des choses aussi simples que les droits de l'homme, à la laïcité, qui est sans doute une invention chrétienne.
Oui.
Pourquoi ne pas le rappeler si les gens ne veulent pas l'entendre, eh bien tant pis, on va pas se fâcher pour ça, c'est pas non plus dramatique. Et la laïcité peut peut-être continuer à vivre comme une belle idée, à laquelle pour ma part je suis attaché, sans que en permanence on ramène ses défenseurs ou les gens qui y sont attachés à des origines chrétiennes réelles ou supposées, à mon avis réelles. Mais...
Bien, alors, Jean-Luc Marion, dans son livre d'ailleurs, fait remonter la laïcité plus loin encore, puisqu'il dit que ça commence avec le premier livre de Samuel, qui rapporte deux versions de l'instauration de la royauté en Israël, l'une positive, l'autre négative, discutant la question de savoir si le peuple juif doit avoir un roi comme les autres nations, ou si Dieu seul lui tient lieu de roi. La solution consistait à n'accorder au pouvoir politique aucune dignité religieuse en le réservant au grand prêtre et en séparant ce dernier du roi, et même en équilibrant le grand prêtre et le roi par les prophètes. Et puis, le Nouveau Testament a évidemment renchéri, rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Donc la laïcité est en effet issue de ce principe de séparation très antérieur à elle. Mais là-dessus, nous sommes tous les trois d'accord.
Donc, crains, oui.
L'émission peut se terminer. Je vous remercie. Rémy Braque, je rappelle le titre de votre dernier livre, « Sur la religion ». Il est publié aux éditions Flammarion. Denis Moreau, « Comment peut-on être catholique ?» aux éditions du Seuil. Vous trouverez toutes les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable pendant un an et écoutable à vie. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « La France d'hier » et mon invité sera Jean-Pierre Le Goff. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Bruno Mourlan. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeanneney.